et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission « Les athlètes de Dieu ». Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une grande figure de l'athlétisme français, Mélina Robert-Michon. La Lyonnaise de 46 ans s'est faite un nom dans le lancer de disque, un sport très exigeant et technique qui allie force, agilité et maîtrise de ses émotions. En 2016, à Rio, lors de sa cinquième participation aux Jeux Olympiques, la discobole décroche la médaille d'argent, vice-championne du monde également en 2013, médaillée de bronze en 2017, Mélina Robert-Michon détient l'un des plus beaux palmarès du sport français. Elle est choisie par ses pairs pour être porte-drapeau aux côtés de Florent Manaudou en 2024 pour les Jeux Olympiques. C'est aussi une sportive engagée qui lutte contre le fléau du dopage et défend la maternité pour les sportives. Un engagement qui va de pair avec sa foi profonde en Dieu, car Mélina Robert-Michon est aussi une athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holly Games.
Bonjour Mélina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
C'est une grande joie. Vous venez de Lyon.
Exactement.
Ça s'est bien passé le trajet ?
Très bien. Bon. Ça va, c'est rapide.
C'est rapide, 2 heures de train. Et on est là pour parler ensemble de votre parcours absolument exceptionnel que nous allons illuminer à la lumière de ces bougies. C'est la tradition. On a 4 bougies en face de vous. Et on va vous demander de choisir pour cette première partie, eh bien, d'en allumer une, virtuellement, bien sûr. Et je vous donne le petit luminon. Si ça veut bien s'allumer.
Alors, en fonction de la citation ou pas du tout ?
En fonction de la couleur, de la citation, de votre humeur du moment. Ça peut être le rose parce que vous êtes en rose. Ça peut être le bleu parce que vous êtes une Française accomplie. Le vert, couleur très sympa aussi, enfin comme vous voulez.
Allez, vert.
Votre couleur préférée ?
Non, les derniers seront les premiers, ça m'a inspiré.
Les derniers seront les premiers. Alors c'est une super citation parce que cette citation, dans le sport, vous avez tellement gagné qu'on se demande pourquoi vous avez choisi cette citation. Et en même temps, le Seigneur a cette citation qui est pleine d'espérance.
Alors, on retient les victoires, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Donc, j'ai été dernière avant d'être première ou bien classée. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça résume bien le sport, finalement. C'est qu'un échec n'est jamais la fin. C'est au contraire le début d'une aventure. C'est parfois le début de la victoire se construit dans l'échec. Donc, c'est pour ça que ça me parlait bien.
Est-ce que vous vous souvenez d'un échec qui vous a particulièrement marqué et qui a été difficile à surmonter ?
Oui, championnat du monde 2015. Je sors de 2 saisons, 2014-2013, avec des médailles sur les championnats du monde et championnats d'Europe. Donc vraiment très attendu, peut-être la première fois où j'étais avec un statut de favorite et j'ai pas du tout assumé. J'ai vraiment craqué sous cette pression-là et ça a été très dur à encaisser. On était à 1 an des JO et ça a été une vraie remise en question et de me dire mais comment je vais faire si je suis pas capable déjà de gérer cette pression sur des championnats du monde, comment je vais faire sur des jeux. Donc voilà, il y a eu pas mal de remises en question par rapport à tout ça et je pense que cette médaille olympique, elle commence à se gagner à ce moment-là, en fait.
C'est incroyable ce que vous nous dites. Olivier Giroud a eu les mêmes paroles. Euro 2016, il est en finale, il pleure de peine parce qu'ils ont perdu face au Portugal. Et bien 2 ans après, ils sont champions du monde et là, ce sont des larmes de joie. Et il nous dit, sur Europe 1, grâce à cette finale, on a pu se remettre en question et aller chercher cette victoire en 2018.
C'est exactement ça, en fait. C'est de se dire, qu'est-ce que je fais de cette défaite ? Est-ce que c'est quelque chose qui me détruit et je reste tout en bas et c'est fini ? Ou est-ce que comment je fais pour remonter et qu'est-ce que je mets en place ? Et surtout, quelles erreurs j'ai faites pour pas les reproduire ? Et qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je dois améliorer ? Dans quel domaine je dois progresser ? Donc c'est une remise en cause, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut aussi accepter de faire un petit peu son mea culpa sur les erreurs qu'on a pu faire. C'est d'assumer aussi tout ça, c'est de pas rejeter la faute sur les autres. Et c'est important dans ces moments-là d'être bien entouré.
La préparation mentale, est-ce qu'elle joue aussi pour se reconstruire ?
Oui, beaucoup. Ça a été aussi un déclic de me dire, voilà, j'étais prête physiquement, j'étais prête mentalement, mais psychologiquement, bah j'ai pas ça a pas suivi et du coup bah ton physique ta technique à ce moment-là il te sert plus à rien si t'es pas en capacité de d'absorber tout ça. Donc ça a été c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à travailler mais je me suis dit là voilà, il faut que je me mette au niveau psychologique de mon physique et de ma technique.
Certains font du yoga, certains essayent de bien respirer, de prendre leur temps avant les compétitions, d'être dans leur bulle. Est-ce que d'une certaine façon, puisqu'on est dans l'émission Les Athlètes de Dieu, Mélina Robert-Michon, la spiritualité, on va en parler, on va revenir sur votre parcours, est-ce que ce domaine-là, qui est intime, vous a permis aussi de rebondir ?
Oui, parce que il faut toujours garder la foi, j'ai envie de dire, la foi en son sport, la foi en ses capacités, la foi en tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez général, mais finalement il faut avoir ce petit truc en soi de se dire j'y crois. Je crois en moi et du coup c'est aussi ça qui va déclencher un petit peu tout le reste.
Et le Seigneur dit d'ailleurs je crois en toi. Souvent on a ces paroles, il y a cette icône exceptionnelle en Pologne, Jésus j'ai confiance en toi, qui a été peinte parce que la sainte Faustine a vu le Seigneur et le Seigneur lui a dit voilà il faut peindre cette image telle que tu me vois avec cette phrase Jésus j'ai confiance en toi. Et ce qui est intéressant c'est que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on peut dire j'ai confiance en Jésus. Mais Jésus nous dit aussi « j'ai confiance en toi ». Ça vous parle, ça ?
Oui, voilà, je pense que quand on est dans la difficulté, on a besoin aussi d'avoir, de se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est souvent dans ces moments-là, finalement, où ça a encore le plus de sens.
Alors, Mélina Robert-Michon, on va parler de votre parcours absolument exceptionnel dans les athlètes de Dieu. Et on va commencer par le béaba. C'est quoi le lancer de disque ?
Alors, c'est facile, le but c'est de lancer le plus loin possible.
Ça c'est simple, dit comme ça c'est simple, mais après je pense que c'est un peu compliqué.
Ça se complique un petit peu après, donc c'est un disque de 1 kg pour les femmes et 2 kg pour les hommes. Et on a une zone...
Diamètre 22 cm j'ai lu,
oui.
C'est ça ?
Voilà, je sais plus.
C'est
pas le même pour les hommes et pour les femmes.
Ah d'accord, donc c'est peut-être pas ça, c'est peut-être voilà. Un peu moins. D'accord.
À vérifier. Du coup, parce que j'avoue que c'est surtout.
J'ai noté 2 kilos. Vous voyez déjà, vous êtes voilà. Donc c'est 1 kilo pour vous.
1 kilo pour les femmes et on a un cercle de 2,50 m dans lequel on doit lancer et qu'on doit pas dépasser et on doit lancer entre deux lignes qu'on appelle le secteur pour délimiter un petit peu la zone. Donc le but c'est de lancer entre ces deux lignes. Sans aller au-delà de ces 2,50 m de plateau.
Ça, c'est sûr que dit comme ça, on a l'impression que c'est simple. Maintenant, il y a quand même une énorme préparation pour le lancer le plus loin possible. Comment on fait ?
Voilà, c'est un tour et demi avec l'objectif de mettre le plus de tension possible comme un élastique un petit peu qu'on étire notre bras et l'élastique. Et le but, c'est de le mettre le maximum en tension pour qu'en final, on a un pied, alors quand on est droitier, un pied gauche qui se pose et ça fait vraiment l'élastique et toute la tension qui se relâche dans le disque. Et le but, c'est de le mettre au maximum de cette tension-là. C'est vrai que c'est une discipline qui allie des qualités qui, à la base, sont pas forcément faites pour aller ensemble. La force, l'explosivité, le relâchement, c'est pas forcément des choses qui matchent le mieux ensemble. Donc voilà, faut trouver un équilibre entre tout ça.
C'est un peu comme le golf, d'une certaine façon.
Oui, voilà, il y a pas mal de similitudes avec le golf. Et puis surtout, c'est un mouvement qui est très rapide, qui dure quelques secondes. Et dans ces quelques secondes-là, vous devez arriver à faire tout dans le bon timing et dans le bon ordre. Et voilà, et la moindre petite décalage dans cette technique, c'est tout de suite des mètres en moins à la chute.
On n'a pas le tournis, là, de faire comme ça
Non, c'est vrai qu'on s'habitue, en fait. Je pense que c'est l'entraînement.
Ouais, c'est l'entraînement. Et c'est vrai qu'il faut ne pas mettre trop de force non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va être hyper gainé et envoyer comme un malade, j'allais dire, le disque, que ça va aller très loin.
Oui, c'est pas parce que vous êtes très fort en muscu que vous allez savoir lancer très loin, en fait, justement, parce qu'il faut allier et la technique, la force, on en parlait, et surtout le relâchement. Et c'est vrai que force-relâchement, à la base, c'est pas forcément des choses qui matchent bien.
Votre père faisait du sport, je crois, Mélina ?
Oui, du rugby.
Et votre maman ?
Non. Elle n'avait pas fait de sport parce que c'était la génération, ça se faisait pas forcément, elle n'avait pas forcément le temps. Et du coup, c'est vrai que depuis petite, ça a été toujours un leitmotiv de nous dire faites du sport. Vous faites le sport que vous voulez, par contre, vous faites du sport.
C'est une super bonne idée.
Exactement.
C'est tellement bon le sport.
J'ai commencé par le judo, j'ai fait du volley, du hand, j'ai essayé pas mal de choses.
D'accord.
Et j'ai découvert l'athlé par hasard.
Mais non. Mais comment ?
Au collège, comme beaucoup, ouais. on a fait. Alors, je faisais du hand en UNSS et la saison de hand finissant, le prof de PS qui nous encadrait, il dit il y a l'athlète qui commence derrière si vous voulez enchaîner. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Ça m'a plu. Il m'a présenté un entraîneur sur les petites compètes qu'on faisait avec le collège, qui lui a lourdement insisté pour que je vienne m'inscrire en club, qui a appelé mes parents, qui m'avait relancé, et c'est comme ça que j'ai commencé. Je crois qu'il a bien fait.
Mais il a plus que bien fait. Parce que vous êtes devenu une maître dans votre sport, une légende du sport français. Et puis surtout, je pense que ça a dû vous apporter humainement des choses incroyables.
Énormément.
Et notamment votre mari, vous avez rencontré, je crois, dans les compétitions. Mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi ce sport. L'athlétisme, il y a la course à pied, le triple saut, il y a les haies, enfin, il y a plein de sports. C'est ça qui est magique aussi en athlétisme.
Oui, j'ai essayé un petit peu tout. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer un entraîneur. Il y avait un groupe d'entraînement et j'étais très impressionnée. C'est des athlètes qui faisaient les championnats de France. Donc pour moi, je les regardais avec des grands yeux en me disant « Waouh, ce qu'ils font, c'est extra ». Et voilà, justement, je me demandais face à cette technique de dire « Mais comment ils font ?» C'était joli à voir et je me dis « Ouais, j'aimerais bien moi aussi arriver à faire comme eux ». Donc ça tient finalement à pas grand-chose parfois. Mais voilà, cet entraîneur qui m'a dit « Non, mais il faut que tu viennes t'inscrire à l'athlète, tu verras, tu fera de grandes choses. » Donc il avait quand même cet œil un peu du maquignon, comme on dit dans l'Isère.
Et voilà,
il avait repéré ça, et puis il a su, je pense, m'amener là où il avait détecté mes qualités physiques, certainement, et il savait que c'est là où je me serais le plus épanoui et ce qui pourrait me plaire le plus aussi. Donc il s'était pas trompé.
Ça fait quoi de lancer un disque?
Je trouve que c'est grisant dans le sens où justement c'est très court, c'est très explosif. C'est quelque chose qui me correspond bien. J'aime pas les efforts longue durée. J'aime pas faire des footings, des choses qui durent longtemps. Donc là, c'est en très peu de temps, on doit pouvoir justement s'exprimer. Donc c'est il y a toute cette tension d'avant et puis il y a le mouvement et puis cette explosion un petit peu à la fin. Bah moi, je m'éclate en tout cas.
Je voulais vous poser une question sur votre premier souvenir en tant que sportif de haut niveau.
Premier souvenir en tant que sportif de haut niveau, ça dépend, ça commence quand, sportif de haut niveau?
Et quand est-ce que vous avez commencé d'ailleurs?
Moi, alors, j'ai commencé l'athlé assez tard. J'ai commencé en rentrant au lycée, donc on a une quinzaine d'années. Mmh. Comme quoi, il n'est jamais trop tard. Je dirais peut-être mes premiers championnats de France, parce que j'avais beaucoup de fierté à me dire, waouh, je suis qualifié pour les championnats de France avec les meilleurs Français. Donc c'était cette première, on va dire, une première étape, en fait, justement, vers le haut niveau. Et c'était une fierté, même si ça n'avait pas été une grosse réussite.
Alors on va allumer la deuxième bougie, Mélina.
La bleue. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pareil, c'est assez corrélé au sport, parce qu'on ne peut pas toujours être fort. Il faut accepter aussi d'être parfois plus faible. Et c'est en acceptant cette faiblesse qu'on progresse.
Est-ce que vous êtes énervé contre ces faiblesses parfois?
Oui, bah forcément.
Comment?
Parce que
vous avez crié, vous êtes en colère,
oui,
vous avez pleuré.
Oui, parce que quand ça marche pas comme on veut, ça peut être la tristesse, ça peut être des pleurs, ça peut être plein de choses, mais finalement c'est aussi montrer qu'on n'est qu'un simple être humain, j'ai envie de dire.
Votre premier souvenir en tant que chrétien, vous êtes chrétienne, vous l'affirmez, vous le dites aujourd'hui?
Je le dis. Après, c'est pas forcément quelque chose dont je parle beaucoup. Parce que y a plein de manières de vivre sa foi et moi elle est plutôt personnelle et plutôt individuelle, j'ai envie de dire. Mais en tout cas non, ça a jalonné mon enfance parce que comme beaucoup ça a été alors le baptême, non, je me rappelle pas parce que j'étais assez petite, mais après voilà toutes les cours de catéchisme et puis les différentes célébrations qui était familial, c'est-à-dire qui était des moments forts qui nous permettaient de se retrouver, d'avoir pour moi la foi, c'est aussi ça, c'est le partage, c'est la famille, c'est ce qui nous rapproche.
Est-ce que cette foi, elle a grandi au fil des victoires et des défaites? Est-ce qu'elle a grandi d'ailleurs plus avec les victoires qu'avec les défaites ou l'inverse?
Je dirais un peu les deux, mais en tout cas, elle fluctue. Voilà, il y a des moments où on y prête plus attention, il y a des moments où on la met un petit peu de côté, il y a des moments où et je trouve que c'est important aussi justement d'avoir des fois de prendre un peu de recul sur les choses et de se questionner par rapport à tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que les épreuves en général, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ça c'est là où souvent on se resserre un petit peu sur sa foi et on se pose les bonnes questions et on remercie ou on questionne des fois, se dire, on peut des fois être en colère quand on voit arriver certaines choses, se dire mais pourquoi il se passe ça, pourquoi la vie est injuste ou donc voilà, c'est des questionnements qui se posent un petit peu tout au long de notre vie et je pense que c'est ça en fait, il y a pas de linéarité. Et finalement le sport c'est un petit peu pareil, ça voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois on croit, des fois on croit moins
et la foi c'est pas automatique et la foi c'est pas une certitude.
Exactement.
Comme les victoires ne sont pas des certitudes, on est toujours sur un chemin.
Là encore, je parlais de remise en question tout à l'heure par rapport au sport, mais dans la foi, c'est pareil. Parfois, on est amené à se remettre en question, de se dire mais pourquoi je crois finalement, pourquoi il se passe tout ça, pourquoi donc et c'est là encore où on progresse. Je pense que exactement comme dans le sport, c'est ces remises en question là qui nous permettent de progresser, de devenir des meilleures personnes.
Est-ce que Mélina, ce sont vos parents qui vous ont transmis cette foi? C'est familial?
Oui, mes parents, ma grand-mère, beaucoup aussi, qui étaient très pratiquants, très investis dans la vie chrétienne locale.
Et, en Isère,
à Colombes, exactement.
À Colombes. Et vous avez votre stade d'ailleurs à Colombes, j'ai vu.
Oui.
C'est extraordinaire.
Voilà, c'est le village où j'ai grandi, où mes parents sont toujours. Donc, c'est un lieu qui compte beaucoup pour moi. C'est là que j'ai commencé le sport aussi. Donc, ça fait pas mal de sens.
Comment on fait quand on est athlète de haut niveau pour pratiquer sa foi? Pas simple, avec tous les déplacements que vous avez, la pression, les agendas qui sont remplis, les sollicitations médiatiques. Comment on trouve un peu de temps pour soi?
Je pense que c'est important déjà de prendre le temps et que malheureusement on a tendance à s'oublier un petit peu trop et à se laisser un petit peu dépasser par tout ça et que ça fait du bien d'avoir un peu de recul, d'avoir justement un peu de temps mort aussi. Je pense que c'est là où de refaire descendre un petit peu la pression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis. Et finalement, la foi, ça se vit partout. J'ai envie de dire que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. J'ai pas besoin d'être forcément dans une église ou dans un lieu de culte pour vivre ma foi. C'est l'avantage, c'est pour qu'on l'emmène partout avec nous, en fait.
Mais vous êtes dans les stades, et dans les stades, il y a quand même une énergie assez particulière qu'on peut retrouver parfois dans les églises, une émotion qu'on vit intérieurement.
Oui, c'est des endroits qui sont chargés d'histoire, d'émotions. C'est des endroits qui sont, voilà, on a des stades qui sont quand même magnifiques et je trouve qu'ils ont une profondeur, en fait. Quand on rentre dans un stade, voilà, il se passe quelque chose, ça, au fond du corps, on sent qu'il y a une émotion particulière qui se crée et ça, c'est des moments qui sont irremplaçables, j'ai envie de dire.
Mélina Robert-Michon, sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu, je vous passe une carte verte. Vous allez pouvoir la découvrir, c'est alors, derrière.
Dans quel lieu vous sentez-vous particulièrement en paix? Eh bien, justement, j'irai dans mon village d'origine, où je retourne assez régulièrement pour voir ma famille, parce que c'est mes racines, et je pense que voilà, j'ai des parents agriculteurs, c'est peut-être pour ça aussi, mais voilà, je suis assez fière de ces racines, et je pense que c'est important de savoir d'où on vient pour savoir où on va, et j'ai besoin de retourner faire ce plein d'énergie de temps en temps pour voilà, quand je suis là-bas, j'ai l'impression que je suis plus l'athlète, je suis moi, la petite fille qui a grandi là-bas, et ça fait du bien je repars en général pleine d'énergie quand je repars de là-bas.
On a besoin d'être toujours lié à ses racines. Les agriculteurs, ils travaillent la terre, il y a les racines du blé, de la betterave, je sais pas ce qu'ils font, hein, comme peut-être que ce sont des animaux aussi qu'ils ont dans
les deux,
la ferme.
Oui, animaux,
les deux,
animaux et culture. Oui.
Et les racines chrétiennes, les racines de la foi. Ça aussi, ça, on peut faire le lien, le parallèle avec les agriculteurs.
Bah, je dirais que c'est la base de la vie, en fait. C'est de savoir, d'avoir des gens qui nous nourrissent et puis d'avoir ce respect aussi de la nature et de la météo et de devoir composer avec tout ça et de vivre en harmonie avec tout ça. Et je pense que ça, c'est des belles valeurs. En tout cas, moi, je sais que ça, c'est des belles valeurs qui m'ont permis de me construire et qui m'ont permis d'être une personne en pleine forme, dans tous les sens du terme.
Vous rencontrez votre mari, vous m'avez dit tout à l'heure hors antenne, sur les lieux de compétition. Est-ce que, si vous voulez bien en parler, mais est-ce que pour vous c'est un signe de Dieu, cette rencontre qui va changer votre vie?
Oui, bah forcément, j'ai eu la chance de le rencontrer alors sur un stage d'entraînement, exactement. Cette rencontre, forcément, elle a changé ma vie puisqu'on est voilà, on a construit une famille ensemble et il est devenu mon entraîneur maintenant. Enfin voilà, on a vécu 1000 aventures ensemble et clairement cette rencontre à un moment donné, c'est j'ai envie de dire que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Donc j'ai eu j'ai eu la chance de rencontrer la bonne personne. On n'a pas toujours cette chance-là. Et je me dis que voilà, j'ai été gâtée à ce moment-là.
Vous êtes gâtée, il est gâté parce qu'il vous a. Et vous êtes tous les deux gâtés parce que vous avez des enfants.
Exactement.
Et ça, c'est pas simple quand on est sportif de haut niveau.
Non, c'est pas simple. Déjà, tout court, quand on est une femme, voilà, de trouver la bonne personne déjà pour fonder une famille, d'avoir la chance de pouvoir avoir des enfants. On sait que malheureusement, il y a plein de couples qui ont pas cette chance-là. Donc, moi, chaque jour, je remercie Dieu d'avoir deux filles qui sont extra et de pouvoir être une maman comblée, on va dire.
Est-ce qu'il est possible dans la famille aussi de prendre du temps pour transmettre ces valeurs chrétiennes? Est-ce que vous avez des échanges sur la foi avec vos enfants, avec votre mari? Est-ce que ça arrive?
Oui, surtout avec mes filles. Et c'est marrant de voir justement l'évolution aussi qu'elles peuvent avoir. Ma petite, il n'y a pas longtemps, elle me disait « Ah ben en ce moment, je crois un petit peu moins ». Donc avec ses mots à elle, mais c'est justement se dire que finalement, le cheminement à n'importe quel âge, il est un petit peu le même. Il y a des moments où c'est plus compliqué, où on a des doutes, et puis des moments où c'est évident. Et c'était cette phrase, elle m'a fait sourire.
Est-ce que vous êtes envieux des saints ou des personnes qui ont eu des expériences de voir ou entendre, parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose à un moment donné dans votre vie de foi, ou est-ce que c'est resté quelque chose de plus intime, plus intérieur et pas aussi évident que ça?
Oui, ça serait, je dirais que c'est, mais peut-être lié aussi à mon tempérament d'être plus introverti, donc quelque chose de plus personnel, plus intérieur, mais peu importe, finalement, j'ai envie de dire, la manière de le vivre ou de le ressentir, l'important, c'est d'être aligné avec ça et que ça nous fasse du bien. Je pense que c'est la religion, c'est ça, ça doit vous apporter quelque chose, ça doit vous aider à grandir, ça doit vous aider à être une meilleure personne. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important.
Mélina Robert-Michon, vous êtes une athlète connue, reconnue. Est-ce que cette fois, c'est compliqué d'en parler? Est-ce que ça vous arrive de parler de ces choses, même si vous nous avez dit que c'était très intime, avec d'autres athlètes ou d'autres personnes, ou est-ce que ça reste quelque chose dans le domaine privé?
Non, ça arrive qu'on échange à ce niveau-là, et justement, ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'on voyage beaucoup, qu'on rencontre justement des cultures différentes, des manières de vivre la foi complètement différentes. Par exemple, aux États-Unis, où ils sont très, même dans le sport, certains à prier avant la compétition, ou qui extériorisent beaucoup plus par rapport à tout ça. Et je trouve que c'est une richesse de pouvoir vivre tout ça. C'est l'occasion d'échanger sur justement le rapport à la foi, sur la manière de le vivre, sur différentes religions. On a cette chance-là, c'est que j'aime beaucoup la Réunion pour ça, parce que je trouve qu'il y a plusieurs religions qui vivent ensemble, et je trouve que de nos jours, ça fait du bien de voir ça. Et c'est vrai que là-dessus, ils sont, vous allez avoir la mosquée, l'église, le temple dans la même ville, presque sur la même place, et tout le monde vit sa foi comme il l'entend, et tout le monde est heureux, et chacun vit bien. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fait du bien.
Et c'est vrai que ça m'avait marqué également, la Réunion. Il y a aussi des bouddhistes, des hindouistes, et des personnes athées aussi. Et tout ça forme une belle communauté.
Exactement.
Et c'est extrêmement important, ce sont nos valeurs républicaines, et on le défend aussi avec beaucoup de joie, on a de la chance. Et ça fait écho au village olympique. On va en parler dans un instant, parce que je sais que vous y êtes allé, dans ce village, aux Jeux Olympiques de 2024. Mélina Robert-Michon, ce village olympique que vous avez visité, important de pouvoir permettre d'avoir ce lieu d'expression, ce lieu de ressourcement, pour toutes les religions d'ailleurs. Aux Jeux Olympiques, c'est ça qui est beau.
Exactement, l'important au village, c'est un peu de se sentir comme à la maison. Par exemple, à la cantine, au restaurant, on essaye d'avoir des plats de tous les pays pour que chacun puisse vivre comme il a l'habitude de vivre et soit pas dépaysé. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi, pareil, dans les religions, que ceux qui en ressentent le besoin aient le lieu pour se recueillir, pour prier, pour... c'est vraiment le village, c'est chacun doit pouvoir trouver ce dont il a besoin, et un peu la manière dont il vit chez lui. Et ce qui est magnifique, c'est de voir justement tout ça réuni au même endroit et que ça se passe bien et que les gens sont contents de partager tout ça ensemble.
On a reçu le président, ancien président du CIO, très croyant et qui est très attaché justement sur la libre expression de toutes les croyances et qui a mis en place une aumônerie avec le soutien, bien sûr, de Monseigneur Gobillard, que vous connaissez, qui est originaire de Lyon. Exactement, il est toujours très attaché à Lyon et à l'Olympique Lyonnais aussi, hein, magnifique club. Est-ce que cette aumônerie, en tout cas la présence de ce soutien spirituel, c'est important ?
Pour moi, c'est important de pouvoir avoir cette possibilité de se dire, voilà, tiens, là, j'ai besoin de me recentrer, d'échanger avec Dieu ou d'avoir un lieu particulier pour me recueillir. Voilà, c'est important d'avoir ce lieu identifié. Et peut-être pour les athlètes, on sait que on vit des moments avec des émotions très très fortes sur les Jeux Olympiques. Donc voilà, on sait aussi qu'on peut être plus sensible à ce moment-là. Et le fait d'avoir cet endroit de soutien, même, j'ai envie de dire, c'est important.
Olivier Giroud nous disait, avant un pénalty, je me tourne vers le Seigneur, juste une seconde, quelques instants, pour me recentrer, me reconcentrer, pour prendre les forces. Est-ce que ça vous est arrivé, avant de lancer un disque, de vous dire, Seigneur, aide-moi ?
Oui, ça arrive. Des fois, alors souvent quand on est en difficulté, hein, forcément, et de se dire, là, je crois que je vais avoir besoin d'aide parce que je vais pas y arriver, en fait. Donc, il y a toujours cette pensée-là, et puis le petit truc d'après, de se dire, bah merci, j'avais juste besoin de ce petit coup de main, de ce petit aide, et puis c'est un côté rassurant de se dire, voilà, on a quelqu'un à côté de soi.
Si Jésus avait fait de l'athlétisme, est-ce qu'il aurait fait du lancer de disque ?
Alors là, bonne question, je sais pas. Peut-être plus de, je crois qu'il était plus course à pied, non ?
Et il courait beaucoup, hein, il marchait
oui,
beaucoup.
Oui, voilà, c'est pour ça que
je me dis...
Il aurait
pu faire le 50 km marche, par exemple.
Marchait, voilà, c'est vrai, la marche, il aurait pu faire.
Avec Johan Diniz, je pense qu'il serait...
Exactement.
Ils auraient été en bonne compétition.
Voilà.
mais c'est vrai que vous avez illuminé les stades de votre présence, de vos résultats. Et j'aimerais évidemment, maintenant, sur Europe 1... Alors, on n'a pas allumé la troisième bougie, je crois. Il faut quand même qu'on allume, parce que sinon, je vais me faire... tirer les cheveux par Isabelle de Châtelut, qui est avec nous derrière.
À mon pull, par ta victoire grandit son éclat. Bon, encore une fois, de toute façon, c'est que des phrases inspirantes, hein, que des phrases qui collent avec le sport, parce que voilà, la victoire, on grandit des défaites, on l'a dit tout à l'heure, mais la victoire aussi, ça fait du bien de temps en temps, et ça rejaillit aussi sur pas que sur l'athlète, mais sur tous les gens qui sont autour de lui, et cette base que j'ai souvent envie de mettre en avant, de valoriser, parce que on parle souvent de sport individuel, notamment en athlée, mais finalement je suis jamais toute seule, et heureusement. Donc j'ai la chance d'être très bien entourée, et ces victoires, elles sont faites pour être partagées.
Vous êtes vice championne olympique en 2016 à Rio. Qui est le ou la plus heureuse ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est votre mari ? Est-ce que ce sont... Alors, les enfants étaient encore très jeunes. La première, je crois.
Oui, elle avait 6 ans.
6 ans. Est-ce que ce sont vos parents ?
Je pense que c'est tout le monde. C'est tous ceux, justement, qui ont participé à un moment donné à cette aventure. Parce qu'elle a été longue. Ça a été, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, les cinquièmes jeux pour arriver à avoir cette première médaille. Je crois qu'elle a été tellement attendue que l'émotion a été à la hauteur de l'attente. Et finalement, elle a rejailli sur tous ceux qui ont toujours été là. Parce que, voilà, avant cette médaille, il y a eu des moments très difficiles. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on voit les personnes sur lesquelles on peut compter. Donc, cette médaille, elle était pour toutes celle-là.
66 mètres 73, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Essayez un jour dans un stade de lancer même une bouteille d'eau, allez la récupérer. Vous verrez que faire 66 mètres, c'est juste dingue.
Alors, pour vous donner un petit... un peu pour vous rendre compte, vous mettez dans une cage de foot,
oui.
C'est plus que la moitié du terrain.
Non mais c'est hallucinant, parce que ouais. Déjà, rien que de faire un dégagement, je pense que je vais avoir du mal à mettre le ballon de l'autre côté. Non, mais
vous
c'est
essayerez,
fou.
Puis vous...
Ah mais je vais essayer, on va parce qu'on fait
venez un jour à Lyon, on fera une petite initiation.
Ah mais on va, avec joie, on va venir, le rendez-vous est pris, on va faire une initiation du lancer de disque. On se fait pas trop mal là au bras, non c'est...
Non, ça va, vous avez...
Bon, alors c'est super.
Vous êtes sportif, ça se passera bien.
Ouais, alors bah, j'adore ça. Usain Bolt, c'est extraordinaire. Parce qu'on est en 2016, donc il est champion olympique, 2012-2016. C'est le roi du stade, l'éclair qu'il fait, l'éclair de génie qu'il est. Et il vient vous féliciter.
C'est ça, en fait, quand on est sur le stade, il n'y a pas de je sais pas comment dire, de stature ou de voilà, on est tous des athlètes. Moi, je viens de gagner une médaille, je suis super contente. Lui, il est dans son truc, il passe, ah, félicitations, comme si voilà, parce que quand on est sur un stade comme ça, on est content pour la réussite des autres, parce qu'on sait derrière tout ce qu'il y a derrière. Quand on est athlète, on sait tout ce qu'il y a derrière cette réussite là. Et je pense que moi, j'ai énormément d'admiration pour tous les athlètes, et champions ou pas d'ailleurs. C'est là-dessus, il n'y a pas de discussion, parce que quand t'as été champion, tu sais tout ce qu'il y a eu derrière, les moments de doute, justement les échecs. Moi, j'ai énormément de respect justement pour les athlètes, et je pense que voilà, c'est un peu dans ce sens-là de dire. On sait ce qui a pu se passer, tout ce qu'il y a eu avant, tout le travail qu'il y a eu par rapport à cette médaille. Donc, félicitations. Je pense que voilà, c'est dans ce côté de soutien et de compassion.
Usain Bolt courait toujours avec une médaille miraculeuse. Je vous offre une médaille miraculeuse.
Ah bah oui.
Là. Regardez, elle est pour vous.
Merci beaucoup. Je la garderai précieusement, avec Marie.
Voilà, cette médaille, elle vient de la rue du Bac. Elle est pas très loin, cette rue. Il y a une chapelle incroyable. Et dans les années 1830, il y a une sainte, Sainte Catherine Labouret, qui a cet appel, je crois, c'est en pleine nuit, qui voit un ange et qui lui dit d'aller dans la chapelle. Et là, elle voit la Vierge Marie. Et on est en période difficile, il y a la peste, il y a des maladies, et la Vierge lui dit de faire frapper cette médaille. Non pas comme un gris-gris, ça va protéger évidemment beaucoup de personnes qui l'ont mise, mais aussi comme un signe d'espérance et de joie. Ça, c'est important d'avoir ces petits signes. Je sais pas si vous en avez chez vous, des signes de croix. Il y a des athlètes d'ailleurs qui portent certaines choses. Est-ce que oui. Vous, c'est quelque chose qui peut être important pour vous?
Oui, c'est, ça permet de se rappeler. Des fois, justement, quand on a le doute, c'est quelque chose d'un peu concret d'avoir un objet dans la main, autour du cou. C'est des rappels concrets quand on en a besoin, voilà, de toucher quelque chose ou de sentir un petit peu justement l'émotion qu'il y a quand on a une médaille de baptême ou des choses comme ça. C'est lié aussi à des moments forts ou à des émotions, donc ça fait du bien.
Vous étiez à Rio. Vous êtes vice-championne olympique, c'est le sommet de votre carrière, et vous êtes juste en dessous, à quelques encablures du Christ Rédempteur.
Oui.
Et c'est fou, ça.
Oui, et en même temps, j'ai même pas eu le temps de visiter, d'aller le voir de plus près, donc ça, c'est une petite frustration, je pense qu'il faudrait que j'y retourne.
Moi non plus. J'irai avec ma famille.
Voilà, c'est ce que je me dis.
Et pourtant, j'étais pas loin. Le Club France, c'était juste en dessous.
Bah exactement, j'ai une photo, on a fait une photo avec mon mari, justement, on est juste en dessous, en se disant, bah voilà... On l'a vu, mais de loin.
Alors, Mélina Robert-Michon, j'ai une petite carte bleue, je vous la transmets. Il y a une question pour vous.
Alors, quel passage de la Bible vous accompagne dans les moments importants de votre vie? Je dirais peut-être pas forcément un passage de la Bible, mais en tout cas, il y a une citation, et je trouve qu'elle est énormément d'actualité, qui est de « Aimez-vous les uns les autres ». Parce que finalement, je trouve que ça résume beaucoup de choses. C'est à partir du moment où... Bah, on accepte l'autre, en fait, avec ses défauts, ses qualités, et qu'on l'aime comme il est. On lui demande pas de changer, en fait. Et la religion, c'est ça. Pour moi, chacun doit pouvoir vivre sa religion comme il l'entend et être respecté de l'autre par rapport à ça. Quand on aime quelqu'un, on l'aime, voilà, avec toutes, je disais, ses qualités, ses défauts, sa religion, son truc, et on lui demande pas de changer, on lui demande d'être comme ça, et on l'aime comme il est, en fait. Et je trouve que, en ces temps un petit peu compliqués, je trouve que cette phrase, elle est très forte de sens, et on devrait s'en inspirer beaucoup plus.
Est-ce que vous en êtes inspiré quand il y avait de la friction sur la ligne, avec vos proches, avec entraîneurs? Est-ce qu'à un moment donné, ça a été dur, et il a fallu aussi se raccrocher à ça?
Oui, bah forcément. Je veux dire, quand on vit H24 avec quelqu'un, c'est pas toujours la fête à la maison. Donc il y a des moments où c'est plus compliqué. Et voilà, il faut accepter de se dire que chacun a le droit d'avoir ses mauvais jours aussi, et que le lendemain, un jour c'est lui, un jour c'est moi, et chacun son tour, et que finalement on passe au-delà de ça, parce que l'amour est plus fort que tout ça, j'ai envie de dire.
Ce qui me frappe aussi, c'est ce dialogue. Envers toutes les religions, qui est très positif, ce que vous avez. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est aussi votre expérience, le fait d'être allé dans différents stades, dans différents lieux dans le monde.
Voilà, c'est pour ça que je pense que on a une chance avec le sport, c'est de voyager, de rencontrer toutes ces cultures, toutes ces religions, ces manières de vivre. Et je pense que Déjà, quand on voit tout ça, moi, en tout cas, je suis contente de revenir aussi chez moi. Je pense que j'apprécie encore plus la France quand je reviens, parce qu'on voit aussi ce qu'il y a bien et ce qu'il y a de moins bien dans d'autres, d'autres pays, d'autres cultures. Et c'est vraiment une chance. Pour moi, la connaissance fait que qu'on apprécie encore mieux les choses. Je pense que le pire, c'est l'ignorance, en fait. Quand on connaît pas quelque chose, souvent ça fait peur, et c'est là où se créent les tensions et les problèmes, alors que justement on va à la rencontre, on discute, on échange, et on se rend compte que finalement voilà, on est tous faits pour vivre ensemble et sans problème.
Alors, Mélina Robert-Michon, vous êtes sur Europe 1 et nous sommes sur la page de Jean 15, Jésus est la vraie vigne. Il y a un certain nombre de paroles, de paraboles qui sont dites et de, on va dire, de conseils de la part de Jésus dans ce moment qui est court. Pendant quelques années, il va aller un peu partout en Israël pour aller témoigner, pour convertir. Et je voudrais pour cette émission Athlète de Dieu que vous puissiez lire cette partie, parce que justement vous en parliez il y a un instant de cette phrase de l'Évangile.
Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ben, je pense que c'est quelque chose qui me résume bien. Je parle souvent d'entourage, de personnes de confiance. Voilà, j'ai besoin d'avoir autour de moi des gens sur qui j'ai confiance et pour qui je peux donner tout ce que j'ai. Parce que voilà, c'est ce partage, et ça, c'est l'éducation aussi que j'ai reçue, et l'éducation aussi chrétienne, pour moi, c'était aussi ça, c'était ce partage, d'être à l'écoute des autres, de donner, d'échanger, et ça, c'est des choses aussi, des valeurs qu'on retrouve dans le sport. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je me plais et que je m'éclate dans le sport, parce que ça correspond finalement aux valeurs que j'ai reçues quand j'étais petite.
Mélina, il y a une dernière bougie allumée.
Alors, ça sera la jaune. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Enfin, ça rejoint un petit peu la discussion qu'on a déjà pu avoir, de se dire, voilà, il y a des moments où on est un peu en bas, un peu dans le dur, et souvent c'est là où on fait appel, on se dit, voilà, j'ai besoin de toi, je vais avoir besoin de ton aide, je vais avoir un petit signe, un petit truc pour donner le petit top départ de remonter un petit peu. Et c'est là que la foi aussi est importante, de sentir, malgré tout le monde qu'on peut avoir autour de soi, de sentir qu'il y a un petit truc en plus.
Malgré les différentes compétitions post-médaille olympique que vous avez disputées, en 2017 évidemment, les championnats du monde, ça a été plutôt réussi pour vous, mais sur les autres Olympiades, malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles médailles. Comment on le vit, Mélina ?
Pas toujours bien. Ça peut être des moments qui sont très très difficiles. Clairement, Tokyo, ça a été un traumatisme pour moi, parce que justement, je sortais d'une Olympiade médaillée, et en plus, on était dans un contexte très particulier COVID. À huis clos. Voilà. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est le partage, c'est d'avoir ce stade qui est plein, cette énergie justement qu'on ressent. Et là, je me suis retrouvée dans un stade qui était complètement vide. Et je pense que moi-même, j'étais vidée, en fait. J'avais pas l'impression d'être aux Jeux Olympiques. Donc c'est quelque chose dont j'ai eu du mal à me remettre. Ça a pris plusieurs années parce que voilà, j'avais ce sentiment de pas avoir vécu l'événement, ou en tout cas pas comme je voulais le vivre. Donc ça m'a pris vraiment du temps à digérer tout ça.
Mélina, vous êtes en 2024 porte-drapeau, un honneur incroyable, mérité, avec Florent Manaudou. Comment ça se passe? Quel est le moment? Enfin, comment on vous l'annonce? C'est Tony Estanguet qui vous fait cette annonce?
Non, c'est le président du CNOSF qui m'appelle pour prévenir. Et c'est vrai que là, en termes d'émotion, c'était assez exceptionnel, parce que voilà, je me suis reprojetée 25 ans en arrière, et je me suis dit, mais à quel moment, jamais j'aurais imaginé, ne serait-ce que de pouvoir être envisagée, j'ai envie de dire, pour ce poste-là. Et de me dire que moi, quand je regardais les porte-drapeaux avec des grands yeux, comme des personnes d'une autre planète dont je faisais pas partie, en fait. Donc ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai eu du mal à réaliser et à me dire, voilà, c'est moi, en fait. Et d'avoir été en plus élue par les autres athlètes, Je pense que c'était quelque chose d'important pour moi. Je me disais, voilà, c'est vraiment un choix de leur part, parce que des fois, ça peut toujours faire polémique à partir du moment où il y a un choix. Et là, je me dis, bah voilà, le fait d'avoir été choisi par mes pères, je trouve que c'était une dimension qui était encore plus forte.
Vous aviez voté pour qui?
Alors là, je vais pas dire, parce que je vais pas me faire des amis. À partir du moment où il y a un choix, non, je dirai pas.
D'accord. Le dites pas, parce que c'est pas l'objet de l'émission. On n'a pas envie de vous froisser avec certains sportifs.
Mais c'est dur. C'était dur de choisir, parce que franchement, on a la chance en France d'avoir justement plein d'athlètes avec, c'est toujours difficile parce que, voilà, en tant qu'athlète, on sait justement toutes les difficultés qu'il y a derrière et, chaque athlète a des qualités, à défendre, donc c'est pas évident de faire un choix.
C'était comment dans le stade? Enfin, en tout cas, c'était dehors, hein, bien sûr. C'était comment?
Oui, alors...
C'était au bord de Seine, c'était sur les bateaux,
c'était humide, très humide. Ouais. C'est vrai qu'on était trempés, mais j'ai envie de dire que c'était la danse de la joie toute la soirée, parce que voilà, on a passé toute la soirée sous la pluie, mais on avait l'impression d'avoir des grands enfants, en fait, qui s'amusaient, comme quand on est petit, qu'on danse sous la pluie, qu'on joue et que... Peu importe ce qui peut se passer, on est content d'être là et on est à fond. Et là, c'était vraiment ça et ça se voit. Des fois, on revoit des images, des photos, on se dit, mais ouais, c'était un moment suspendu. Un moment rare où justement, on est vraiment dans l'instant présent et puis plus rien ne compte à côté, en fait. Et ça, c'est des moments qui sont tellement beaux, tellement forts qu'on a envie d'en revivre plein.
Quand on voit la Tour Eiffel arriver, quand on voit tous ces sportifs aussi avec chacun leur délégation,
voilà,
cette cérémonie incroyable.
C'est les JO dans tout ce qu'ils ont de plus beau, dans ce partage, dans cette universalité, en fait, de se dire, voilà, t'as des pays, il était tout seul, il y avait un seul athlète, mais il est là, en fait, et il représente son pays, et on entend parler de son pays grâce aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est fort aussi.
Mélina Robert-Michon, ça ne vous a pas échappé, en tout cas aux auditeurs d'Europe 1. Vous n'avez plus 20 ans, mais vous êtes encore très jeune, bien sûr. Mais pour le sport de haut niveau, vous êtes en train de défier toutes les lois, j'allais dire, de la nature, de l'athlétisme. Vous avez 46 ans, c'est ça?
Exactement.
C'est incroyable. C'est magnifique. C'est fou ce que vous êtes en train de faire.
En fait, je crois que je me pose pas la question, et c'est peut-être pour ça que ça marche. Je me fixe pas de limites, surtout. J'accepte que... Bah oui, c'est mon corps peut réagir parfois différemment, mais en même temps, on se connaît bien, mon corps et moi. Donc, on avance ensemble et on se fait confiance et je le connais. Donc, je pense que je suis même, j'ai envie de dire, des fois, je me sens même meilleure qu'il y a 20 ans parce que déjà, j'ai plus confiance en moi et en mes capacités. Et puis, il y a aussi, du coup, cette motivation aussi de dire j'ai envie de faire ce que les autres n'ont jamais fait. Et peut-être qu'il y a une voie à ouvrir à ce niveau-là et de se dire que finalement, l'âge, c'est aussi une injonction un petit peu qu'on nous met, que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail ou dans plein de choses. Et que finalement, l'important, c'est pas ces deux chiffres qui sont marqués sur un papier. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Et j'ai envie de montrer qu'il y a encore plein de choses à faire à 46 ans.
2028, Los Angeles. Là, c'est mon côté journaliste.
C'est en cours de réflexion.
Ne me dites pas encore. C'est pas officiel.
Non, honnêtement, c'est... Il y a encore pas si longtemps, je vous aurais dit, mais c'est mort, jamais de la vie. Et la réflexion progresse de plus en plus parce que les performances, en fait. Je pense que moi, je fonctionne comme ça. Si je vais à Los Angeles, c'est parce que je suis en capacité de rivaliser avec les meilleurs mondiaux, pas pour y aller. Donc, c'est les performances qui vont décider. Et je pense que cette saison sera décisive sur ce choix-là. Mais en tout cas, la porte s'ouvre un peu plus chaque jour, j'ai envie de dire.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Mélina Robert-Michon, qui aura 48 ans aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. C'est un défi aussi que se lance Teddy Riner. Les grands champions, les grandes figures du sport qui seront peut-être au rendez-vous américain après Paris pour faire briller notre drapeau, notre pays qui est absolument magnifique. Et justement, vous êtes une figure, j'ai une question pour vous.
Quelle figure de saint vous parle et pourquoi?
Ça peut être pas forcément un saint, ça peut être aussi une personnalité. Voilà. Olivier Giroud nous a parlé de Nelson Mandela. Je trouvais ça fabuleux comme exemple.
Moi, ça serait peut-être Sœur Emmanuelle, parce que c'était... une personnalité que ma grand-mère adorait et dont elle me parlait beaucoup justement sur toutes les actions qu'elle pouvait faire, sur la bonté de son âme, j'ai envie de dire, et de tout ce qui transparaissait quand sur toutes les émissions, les choses que j'avais pu suivre justement avec ma grand-mère. Et je trouvais que c'était une âme pure dans le sens où voilà, elle était là où elle devait être. Et on sentait que sa vie, c'était de rendre les autres heureux avec le peu de choses qu'elle avait. Et je trouvais que c'était des images qui étaient très très fortes et c'est des choses qui m'ont marqué.
Elle avait un sourire incroyable, hein, des yeux bleus.
La peau tannée par le soleil, parce que voilà, elle avait vécu justement dans la pauvreté. Elle allait vraiment sur le terrain et on voyait qu'elle était vraiment là où elle devait être et que c'était vraiment sa mission à elle était là. On voyait qu'elle la menait vraiment avec tout son cœur et toute son âme. Je trouve que c'est quelque chose qui transparaissait vraiment dans toutes les images qu'on pouvait voir.
Quelle est votre mission à vous, Mélina Robert-Michon? Est-ce que vous avez pensé à un moment donné, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi?
Oui, souvent. Et je me dis que finalement, c'est de montrer qu'il ne faut pas se fixer de limites et que tout est possible. Parce que moi, je me revois, quand j'étais plus jeune, à me dire mais j'ai rien de spécial en fait. J'ai l'impression que tout le monde avait un truc et que moi, je savais pas trop ce que j'avais de plus que les autres. J'ai envie de dire, je me trouvais trop grande, j'avais trop d'épaules, j'avais trop de choses. Et le sport, ça a été pour moi l'occasion de me révéler et de me dire mais si, toi aussi t'as quelque chose et t'as ta place dans ce monde et t'as quelque chose à apporter. Et puis c'est pas parce que tu viens d'un tout petit village que tu peux pas faire finalement des grandes choses. C'est pas parce que tu fais une discipline qui est peu connue, que tout le monde dit ça intéresse jamais personne, le lancer ou les choses comme ça, que tu peux pas faire de grandes choses et te dire que finalement t'as été choisi par tes pairs d'autres sports qui sont beaucoup plus connus. Et finalement, je me dis, moi aussi, j'ai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice sur plein de choses, donc ça fait plaisir.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Mélina Robert-Michon sur Europe 1 dans les athlètes de Dieu, je connais parfaitement mon corps. Un jour, ce corps, vous allez le laisser.
Oui.
Comme moi, comme tout le monde. Qu'est-ce qui va devenir et quand on passe autant de temps à cultiver son corps, c'est tellement important. On est dans quelque chose d'incarné. Hein. La religion est incarnée. Jésus était un homme et un dieu. Quel rapport on peut avoir, justement, un rapport ajusté à ce corps? Et ça peut parler à plein de gens, justement, qui font beaucoup de sport et qui ont besoin de faire du sport.
Des fois, je me dis, il aura le repos, il aura bien mérité son repos. au moins, il aura donné tout ce qu'il avait à donner. Et j'ai envie de dire que parfois il m'a trahi, hein, parce que les blessures, des fois, c'est vécu un peu comme des trahisons. Mais finalement, je trouve qu'on fait une bonne équipe et j'aime ce corps que justement j'ai eu du mal à accepter parce que je vous dis, j'avais pas toujours les exemples non plus d'avoir des filles qui étaient grandes, d'avoir des filles qui avaient un peu des épaules. Donc j'aime bien comme il est et je l'ai accepté comme il était. On a fait la paix, tous les deux, et je me dis que il aura droit, lui aussi, à un petit peu de repos bien mérité.
Je vais vous poser une question très cash. Dans un milieu où le dopage, évidemment, fait beaucoup de ravages, et certaines personnes ont été tentées, et le regrettent hein, aujourd'hui, je pense à Marion Jones, qui était une immense athlète, peut-être aussi à Lance Armstrong, qui a été convaincu de dopage. On n'est pas tenté à un moment donné? Quand on ne va pas, il n'y a pas des tentations en se disant j'ai triché?
Là encore, je pense que je peux remercier mes parents, ma famille, tous mes entraîneurs que j'ai, toutes les personnes en fait que j'ai eues tout au long de ma carrière, parce que ils m'ont aidé à garder le cap et surtout à me montrer la bonne voie. Souvent, ces personnes-là, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas eu le bon entourage. Alors, je ne sais pas si j'ai eu la chance d'avoir le bon entourage ou si j'ai bien choisi mon entourage, mais en tout cas, j'ai toujours eu la chance d'avoir à côté de moi des gens qui étaient dans la même lignée que moi et dans les mêmes envies, et de me dire je sais pourquoi je le fais et je veux pas gagner à tout prix, c'est-à-dire que je suis pas prête à tout pour gagner, parce que j'ai envie d'être alignée avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je suis, avec ce que j'essaye de transmettre à mes filles. Et ça, c'est cette vision un petit peu à long terme, de me dire j'ai envie de rester moi en fait.
Merci pour ces mots. C'est très beau et c'est très juste. Merci Mélina Robert-Michon.
Merci.
Sur Europe 1, question qu'on pose souvent à nos invités. C'est la musique. La musique, souvent, il y a des athlètes qui arrivent avec leur casque, qui ont besoin de se mettre dans leur bulle. Je pense aux footballeurs, beaucoup qui ont leur casque et leur musique. Est-ce que vous avez une musique en particulier qui vous plaît énormément, qui vous permet peut-être aussi de vous apaiser, peut-être qu'à la maison, vous mettez quelque chose pour souffler après une compétition?
Oui, il y a des périodes, hein. Des fois c'est calme, des fois c'est un peu plus... Mais j'avoue que la chanson de U2, One, je trouve qu'elle a... une vibration, un truc en plus qui est profond en fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui parle et qui nous fait ressentir de l'émotion aussi.
YouTube, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que c'est une musique intemporelle, une musique qui traverse effectivement toutes les générations.
C'est de mon âge, j'ai envie de dire.
Mais... oui, de mon âge aussi. Hein. On est de la même génération. Et c'est vrai que YouTube, quand on va dans les écoutes ou qu'on va au stade, c'est fou. Et quand ils se sont d'ailleurs reformés, on était très heureux.
Mais c'est... puis l'intro, je trouve qu'il est... l'émotion monte, en fait, au fur et à mesure de la chanson.
Et ça vous apaise ou ça vous donne... plus envie d'aller au stade et de lancer le disque très, très loin.
Un peu les deux. Je trouve qu'elle est... il y a un côté apaisant et après ça monte un petit peu. Et ça monte et je trouve que c'est... Ça permet de... Quand on monte un peu trop dans les tours, de redescendre. Et quand on est un peu down, on pourrait dire que c'est presque un peu triste, alors que non, je trouve qu'elle est... Elle emporte, quoi. Elle nous embarque. You got someone to blame. You say one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Écouter jusqu'au bout, mais voilà, il faut quand même qu'on conclue cette émission avec Mélina Robert Michon, notre invitée. Elle est belle, cette musique. Oui, elle parle d'amour, de rupture, de doute, de réconciliation, donc c'est la vie, en fait.
C'est la vie, et c'est aussi un peu votre carrière, avec des hauts, beaucoup de hauts, quelques bas, et j'espère, moi je me lance, hein, j'espère que vous serez au jeu en 2028.
Voilà, je reviendrai c'est le cas.
On a une dernière question à vous poser, Mélina Robert Michon. À quel athlète souhaiteriez-vous transmettre le témoin ?
Je pense à Wendy Renard. Je sais qu'on a eu l'occasion d'échanger justement sur notre foi. Je sais qu'elle a une très très grande foi aussi. Et je suis sûre qu'elle a plein de choses intéressantes à dire.
Une magnifique athlète, une très belle personne. Merci beaucoup. Et donc on invite Wendy Renard dans les athlètes de Dieu. Merci infiniment, Mélina.
Merci à vous. C'était un très bon moment. C'est passé très vite, donc c'est plutôt bon signe.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, avec le soutien d'Holy Games.